à la présentation Ramambay. Les agents de la CUT CAPA impliqués dans le trafic des cartes d'électeurs, ces agents exigent une somme de 25 dollars américains pour ceux qui veulent s'en procurer. Enseignement supérieur et universitaire, la RDC a clôturé aujourd'hui la commémoration du 50e anniversaire d'existence de son université. Un symposium a été organisé ce vendredi à Kinshasa. En Ituri, environ 60% des cultures de manioc décimées par la mosaïque africaine. La région la plus touchée est celle de Mahagi qui en elle seule regorge 50% des cultures du manioc du district. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fausse note dans le processus électoral au Kassai Occidental. Des agents des bureaux de liaison de Tshikapa continuent illégalement à imprimer des cartes d'électeurs. Pour ce faire, ces agents exigent une somme de 25 dollars américains à celui qui veut s'en procurer. Le deuxième vice-président de la CEI en mission au Kassai Occidental a annoncé ce vendredi les premières sanctions à l'endroit de ces agents. Julien Nyamouine.
Au total, 4 agents du bureau des liaisons du Tshikapa au sud du Kassai Occidental sont impliqués dans les opérations d'impression des cartes d'électeurs. Selon Norbert Bachengezi, Kantitima, deuxième vice-président de la CI, ces opérations sont totalement illégales. Elles avaient pour objectif de détourner des fonds à la MONUC. Norbert Kantitima.
On donnait des cartes à des agents fictifs pour aller toucher cet argent auprès de la MONUC. Cette suspension est préventive pour avoir le temps d'y répondre, de rembourser cet argent, ces cartes. Et le bureau de la CI qui les a nommés pourra réfléchir à la révocation de certains d'entre eux.
D'après le deuxième vice-président de la CI, plus de 50 cartes ont été imprimées et délivrées aux personnes fictives pour un montant global de 5 000 $ américains. Parmi les 4 agents frappés par la mesure administrative, il s'agit du chargé de la sensibilisation et de l'entretien du bureau des liaisons, la chargée de la logistique et les chefs du bureau relais de Tshikapa-Kabonia. Norbert Kantitima a affirmé que les enquêtes se poursuivent et le chef de bureau des liaisons de Tshikapa est entendu en ce moment. Cependant, il rassure que cela n'entamera en rien les listes électorales parce que ces listes sont déjà clôturées. Julien Nyamouini, Kananga Radio.
Pendant ce temps à Bukavu, dans le sud Kivu, certains candidats à la députation nationale semblent déjà être en campagne électorale. Ces candidats se livrent déjà à des actes qui peuvent influer sur le comportement des électeurs, alors que la date officielle pour le début de la campagne pour les législatives n'est pas encore fixée par la commission électorale indépendante. Didas Namujimbo.
Des sacs de ciment offerts gratuitement pour la construction de nouveaux bureaux dans une commune de Bukavu, des vêtements et des groupes électrogènes distribués dans Mwenga et Walungu. À chaque fois, les généreux donateurs s'avèrent être candidats aux prochaines élections législatives. Par exemple, dans le quartier Kacha à Bukavu, un candidat à la députation s'attelle déjà à installer des bornes fontaines. Certains habitants saluent l'initiative, mais expliquent qu'ils ne vont pas pour autant voter pour cette personne. On écoute cette habitante.
Ils amènent des choses pour qu'on vote pour eux. Nous, on prend parce que cela appartient au pays. Mais s'ils n'ont pas un bon comportement, on ne peut pas voter pour eux. Nous devons d'abord voir ce qu'ils ont déjà fait. On peut être corrompu par ces biens matériels, puis après, on se retrouve dans la comme avant.
Ces généreux donateurs se défendent. Par exemple, pour ce candidat à la députation nationale qui vient d'offrir des sacs de ciment à une commune de Bukavu, il a toujours fait des dons. On l'écoute.
Si vous posez la question au curé de Kitutu, de Kamituga, de Mwenga, ils ont toujours reçu des dons pour toute cette contrée, tous ces actes. Je ne peux pas penser qu'on ramène ça au simple fait de campagne électorale. D'ailleurs, pour ma campagne est menée depuis bientôt 20 ans.
Alors, ces dons sont-ils des actes de campagne? Selon le chargé de la sensibilisation de la CEI au Sud Kivu, le dossier est à l'étude en ce moment même à Kinshasa entre la haute autorité des médias et la commission électorale indépendante. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Restons au Sud Kivu. Un habitant de Kashunju a été tué mercredi dernier par un militaire FARDC qui tentait de lui ravir ses achats. Selon les témoignages d'un habitant du village et de l'abbé de la paroisse, le militaire a été arrêté 3 personnes qui rentraient du marché de Kashunju. Il aurait ensuite ouvert le feu sur ces 3 hommes qui ont refusé de lui donner leurs biens. L'un est mort et 2 autres sont blessés. Écoutez les explications de cet habitant de Kashunju. Jean-Bou Gendoua est au micro de Didas Namujimbo.
Trois messieurs qui revenaient du marché, quand ils sont arrivés au niveau de Tchibandabouda, ils ont rencontré un militaire qui a tiré brusquement sur eux. Tous ont été à tête. Il y a Tchibandabouda qui a succombé sur le chat et les deux autres sont internés à l'hôpital de Mbumbane. Ils revenaient du marché de Gachungu et ils se dirigeaient à leur domicile à Madakamushing. Le militaire s'est enfui. Ce militaire là érige donc des barrières chaque mercredi, dimanche et samedi, donc les jours de marché, pour demander 50 à la population. Et pendant la nuit, quand ils sont en patrouille, ils prennent les gens, les dépouillent de tout ce qu'ils ont. Ils en ont.
Les mêmes sources ont précisé que le militaire appartiendrait au groupement de combat des FRDC basé à Walungu. Dans le Bandundu, deux semaines après la découverte des bombes à Ndunga, un quartier périphérique de Kikwit, l'équipe des spécialistes annoncée par le commandement de la première région militaire chargée de détruire ces bombes se fait toujours attendre. La population inquiète se pose des questions sur les raisons de ce retard. Pour rassurer la population, l'évêque de Kikwit, les observateurs de la MONUC et le commandant de la première région militaire ont effectué une visite sur les lieux. De Kikwit, une correspondance d'Albert Gapinga.
Il était 15 heures sous la pluie que Monseigneur l'évêque de Kikwit, les observateurs de la MONUC, la population du village Ndunga, où étaient découvertes, voici plus de deux semaines, des bombes et toute la presse ont débarqué en compagnie du commandant première région militaire sur le site Ndunga. Objectif: couper court à toutes les spéculations de l'opinion au sujet de la nature des bombes découvertes afin de rassurer la population. Là, après quelques explications du général Mustapha, Monseigneur l'évêque de Kikwit l'a prié de faire diligence pour que la hiérarchie militaire diligente une mission pour détruire ces bombes et au besoin effectue un ratissage de tout l'espace Ndunga qui suivent les quartiers généraux des troupes angolais lors de la guerre dite de libération. Et le général Mustapha a réitéré son appel pressant à la population d'observer la trêve de l'exploitation de l'espace Ndunga jusqu'à la destruction des bombes. Kikwit, Albert Kapinga, Radio Kapi.
La redynamisation de la cellule d'échange d'informations entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à Kisangani et le problème des personnes recherchées dans la région des Grands Lacs sont entre autres les points majeurs qui ont dominé la réunion de la tripartite clôturée ce vendredi à Bujumbura. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Affaires étrangères Ramazan Ibaya, a demandé aux pays membres de cette tripartite de respecter ses engagements. Enseignement supérieur et universitaire, la République démocratique du Congo a clôturé aujourd'hui la commémoration de 50 ans d'existence de son université. Un symposium a été organisé ce vendredi au Palais du Peuple à Kinshasa pour marquer cet événement. Tous les instituts supérieurs et universités du pays ont été représentés. Une dizaine de professeurs ont même donné leur témoignage de leur parcours et ont présenté des exposés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, lui, a rappelé les réformes envisagées dans le secteur de l'université en RDC. On écoute Théo Barouti au micro de Donna Madimba.
Nous sommes en pleine réforme et je crois que vous suivrez les détails dans les tout prochains jours. Mais en ce qui concerne la situation du personnel de l'enseignement supérieur, un projet de statut a été soumis au niveau du Parlement comme projet de loi.
Dernière question, Excellence. La réforme dont vous parlez, il s'agira de quoi exactement? Ça va se faire dans combien de temps?
C'est à la fois la réforme sur le programme, sur les structures, et c'est donc un ensemble de réformes en profondeur.
Est-ce que c'est prévu pour cette année, l'année prochaine?
Non, la réforme, c'est un processus. Donc on ouvre et on continue à le faire.
Colère des enseignants des écoles catholiques du Kassa Oriental. Ils protestent de n'être pas membres du syndicat national des enseignants catholiques SINECAT. Ces enseignants revendiquent aussi la retenue mensuelle de 150 francs congolais sur leur salaire. Le comité directeur du SINECAT Kassa Oriental explique que cette disposition est utilisée pour le fonctionnement du syndicat. Selon ce comité, tous les enseignants des écoles catholiques doivent contribuer. On écoute Godefroy Chilumba Mwana, président provincial.
D'après les statuts, tout enseignant œuvrant dans les écoles catholiques est appelé à être membre du SNECAT. Les 150 francs corinthiens pour les enseignants de la ville et les 100 pour les enseignants de l'intérieur. Le bureau du SNECAT fonctionne avec ces cotisations-là. Et en plus de cela, nous devons envoyer un pourcentage de Kinshasa au président national du SNECAT. Actuellement, c'est le troisième mois qu'il y a cette cotisation. Chaque enseignant, chaque membre devrait contribuer avec 2% de son salaire de base. C'était accepté de commun accord dans une assemblée générale du 5 novembre. S'il y a à réclamer, mais il y a une procédure, vous adressez à votre syndicat.
Sachez qu'une assemblée extraordinaire réunira les deux parties demain samedi 18h10 à Kinshasa, 19h10 en Ituri, où environ 60% des cultures de manioc sont décimées par la mosaïque africaine. La région la plus touchée est celle de Mahagi, qui en elle seule regorge 50% des cultures du manioc de l'Ituri. Pour éradiquer ce fléau, la FAO intensifie la distribution des boutures saines de manioc tolérantes à la mosaïque dans différents groupements agricoles. Reportage Godlivo Mondo.
La plupart des paysans et agriculteurs des Bounia et des Mahagi se plaignent de la mosaïque. Cette maladie diminue sensiblement la production du manioc, aliment de base des Ituriens. Les paysans qui ne vivent essentiellement que du fruit de leur champ de manioc se retrouvent ainsi dépourvus. La diminution de la production du manioc au cours de cette année culturelle entraîne donc plusieurs conséquences.
En famille, nous manquions presque tout. On n'avait même pas moyen de payer les études pour les enfants. On ne produisait rien dans les champs. On ne vendait rien. Nous travaillons sans bénéficier quelque chose des champs.
Pour le chef d'agence de la FAO Bounia, la distribution des nouvelles boutures tolérantes à la mosaïque en remplacement des boutures locales est l'un des moyens efficaces pour éradiquer ces fléaux. Ainsi, la FAO Bounia a initié depuis quelques mois un programme de multiplication secondaire des boutures saines à Bounia et à l'intérieur du district. Des représentants des agriculteurs ainsi que certains agronomes se chargeront de la distribution des nouvelles boutures dans leurs milieux respectifs. Est-ce pour l'amélioration dans un bref délai de la production du manioc en Ituri? Bounia, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Des infrastructures de santé ont été remises ce vendredi à la population de Kisangani par le ministre de tutelle, Émile Bongeli. Financées par le gouvernement, ces infrastructures sont constituées essentiellement d'une morgue, une ambulance et un appareil d'échographie. Le ministre de la Santé a par ailleurs déploré le détournement des biens communautaires de santé publique. Explication José Deschartes-Minga.
La première infrastructure remise au Boyomé ce vendredi est la morgue de l'hôpital général de référence de Kisangani. D'une capacité d'accueil de 30 corps, cette morgue est, selon le ministre de la Santé, un don du chef de l'État au Boyomé suite aux requêtes lui adressées par ceux-ci. Dr Christian Mapele, médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani, parle de cette morgue et de la façon dont elle sera gérée.
Oui, pour le moment, toute la ville, à travers l'hôpital général, est maintenant à mesure de garder dans de très bonnes conditions les corps et le plus longtemps possible. Donc il y aura une organisation. On va former une équipe de gestion de la morgue et où il y aura un gestionnaire et il y aura aussi des gens qui vont l'aider, ceux qui vont travailler à l'intérieur. C'est dans cette équipe-là, en associant certaines autorités de la ville, du quartier, qu'on va fixer les prix qui devraient être accessibles à la population de la ville d'Exangani.
Une ambulance et un appareil d'échographie ont été aussi remis à l'hôpital général de référence de Lubunga, à la rive gauche du fleuve. Ici, c'était un événement. En effet, depuis de longues années, Lubunga n'a jamais vécu au rythme d'une ambulance. La population témoigne sa gratitude et sa joie à l'endroit du gouvernement de la République. Le ministre de la Santé a demandé à la population de garder ses infrastructures pour son propre bien. Kisangani, José Deschartes-Menga, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, réaction du gouvernement sur l'affaire de deux militants de droits de l'homme arrêtés à Pointe-Noire. Les autorités de Brazzaville ont affirmé leur volonté de ne pas interférer dans la procédure judiciaire en cours. Elles ont par ailleurs mis en garde les ONG internationales contre toute manipulation dans cette affaire. Arsène Sévrin.
C'est deux semaines après l'arrestation de Christian Mounzeo et de Brice Makoso, militants des droits de l'homme, que le gouvernement réagit. Dans un communiqué, les autorités de Brazzaville indiquent qu'elles n'interféreront pas dans le fonctionnement de la justice au nom du principe démocratique de séparation des pouvoirs. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Akwala, a rappelé que les deux hommes arrêtés étaient mêlés dans une affaire de détournement de fonds, de faux et usage de faux en écriture et d'escroquerie. Cela ne relève que du droit commun, a-t-il dit. Le gouvernement du Congo-Brazzaville réagit ainsi aux diverses allégations formulées par la communauté internationale qui estime que ces arrestations étaient illégales et arbitraires. Les autorités ont personnellement mis en garde Sarah Wykes de l'ONG Global Witness qui serait l'auteur de cette vaste campagne. À Pointe-Noire, où sont détenus les deux militants des droits de l'homme, l'ouverture du procès est toujours attendue. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Capi. Okapi. Okapi.